Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Après une belle année 2023, les marchés poursuivent leur emballement. Les actions, mais aussi certaines matières premières agricoles comme le cacao, sans oublier les actifs spéculatifs comme les crypto-monnaies. La planète finance serait-elle devenue folle ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible dès 17h sur le site leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Quel début d'année sur les marchés financiers. La Bourse de Paris gagne déjà plus de 5%, portant son gain à 96% depuis son point bas de mars 2020. À New York, Wall Street fait encore mieux. Quant à la bourse japonaise, elle a battu un record vieux de 34 ans, comme le raconte Yann Rousseau dans Les Échos.
Internet n'existait pas, le Cercle des poètes disparus sortait au cinéma et Hélène de Rock Voisine triomphait en tête du top 50. C'était fin 1989, le 29 décembre, dernier jour de cotation de l'année, la bourse de Tokyo atteignait le plus haut niveau de son histoire à 38 915 points.
Les bourses s'emballent et il y a comme un air de déjà-vu. Bonjour Bastien Bouchaud.
Bonjour Pierrick.
Journaliste au service marché des Échos, l'euphorie de la fin d'année se poursuit sur les marchés actions.
Elle s'amplifie même, on peut dire. Depuis le début de l'année, il y a eu une quinzaine de nouveaux records à Wall Street sur le S&P 500. Le Nasdaq, qui est l'indice très technologique, a même franchi son record qui datait d'il y a 2 ans. En France, le CAC 40 est à son plus haut quasiment historique, qui s'approche des 8000 points. Le DAX allemand est aussi à son plus haut. Et au Japon, le Nikkei a effacé son record qui datait de 1989. Et il s'envole même au-dessus des 40 000 points, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, on peut dire, oui, que l'euphorie sur les marchés actions, en tout cas, se porte bien et continue.
Et même la bourse chinoise bonnet d'âne de 2023 se redresse ?
Oui, alors c'est un peu particulier. Hein. La bourse chinoise, c'est vraiment un marché à part, surtout depuis quelques mois. Face à la chute assez violente des marchés qui se poursuit depuis plusieurs années, le gouvernement chinois, qui est assez autoritaire, qui est un régime quand même communiste, a repris les choses en main assez nettement. Et donc, c'est difficile de dire si c'est vraiment un mouvement de profondeur qui vient des investisseurs eux-mêmes. C'est plus un mouvement orchestré d'en haut par le gouvernement chinois. Mais effectivement, il y a une stabilisation ces dernières semaines, voire même un rebond sur certains segments du marché chinois, ce qui est assez neuf par rapport aux dernières années. Ouais.
En début d'année, on avait parlé ensemble d'un phénomène, l'effet 7 magnifique. Il persiste et il signe ?
Oui, alors il y a un effet de concentration, effectivement, un phénomène de concentration des marchés sur quelques valeurs. Donc les 7 magnifiques, pour rappel, c'est ces valeurs de la tech américaine, ces très grandes valeurs qui pèsent plusieurs centaines de milliards, voire plusieurs milliers de milliards de dollars en bourse. Donc il y a Apple, il y a Microsoft, il y a Nvidia, qui est le nouveau venu, en fait, dans cette bande des très grandes valeurs, qui conçoit les puces électroniques qui sont utilisées par les groupes pour gérer l'intelligence artificielle, en fait. Et il y a aussi Meta, qui est le groupe derrière Facebook, il y a Alphabet, qui est celui qui est derrière Google, on parle aussi d'Amazon et de Tesla. Mais alors, depuis le début de l'année, par contre, il y a une petite divergence. Hein. C'est pas tout le monde qui se porte très bien. Par exemple, Tesla a perdu autour de 25%, Apple a perdu près de 10%. Donc, il y a quand même quelques petites lacunes chez ces valeurs-là. Quand d'autres, comme Microsoft, gagnent 10%, qui s'installent au-dessus des 3000 milliards de valorisation, Meta a gagné 40% et Nvidia plus de 70%. Et, ils ont franchi 2000 milliards de valorisation, c'est assez énorme. Donc, il y a vraiment un effet IA qui est très particulier, qui porte quelques valeurs. Mais à côté de ça, il y en a d'autres qui en souffrent. Il y a des victimes collatérales de cet engouement pour l'IA. On l'a vu à la Bourse de Paris, où Téléperformance, qui est une des valeurs du CAC 40, a perdu près de 15% en une seule journée. Il n'y avait même pas une news propre à cette boîte-là. C'était une fintech suédoise qui s'appelle Klarna, qui a annoncé qu'ils avaient un assistant virtuel dopé à l'IA qui faisait des miracles, qui leur permettait d'économiser jusqu'à 700 postes d'équivalent temps plein dans des centres d'appel. Et donc, comme Téléperformance, c'est le groupe qui gère des centres d'appel pour des sociétés dans le monde entier, forcément, les investisseurs ont pris un peu peur sur ces perspectives et ça a coûté cher sur la boîte.
Les investisseurs étaient plutôt confiants d'ailleurs en ce début d'année. On parlait d'un effet Goldilocks, ni trop chaud ni trop froid. L'inflation recule, les banques centrales desserrent les taux sur les taux d'intérêt. Mais les marchés actions reposent aussi sur les performances et les prévisions des entreprises. La saison des résultats bat son plein, notamment à la Bourse de Paris. Comment ça se profile, Bastien ?
Effectivement, il y a deux éléments dans les valorisations boursières. Donc, il y a est-ce que les taux d'intérêt sont plus ou moins élevés ? Ça joue sur la cherté des actions. Et en ce moment, ça va plutôt bien. Ça a remonté en bourse ces derniers mois. Mais il y a aussi, et ça, c'est le plus important, c'est est-ce que les entreprises font des profits et quelles sont leurs perspectives sur la génération de profits ? Et là-dessus, la saison qui s'achève a été plutôt porteuse, plutôt très bonne même. Dans le CAC 40, les sociétés membres ont généré plus de 140 milliards d'euros de profits au cours de l'année dernière, ce qui n'est pas un record. Elles avaient fait encore mieux en 2021, dans la foulée du Covid. Mais ce qui reste excellent, c'est mieux que l'an dernier. Et c'est en croissance, alors même que les revenus, les chiffres d'affaires, lui, se tassent d'une année sur l'autre. Donc ça montre que les entreprises, en tout cas les très grandes entreprises françaises, sont capables de défendre leurs marges, de gagner encore des sous, toujours plus de profits, même quand le contexte économique est parfois un peu plus compliqué. Donc malgré la morosité de la croissance en France, le chômage qui commence un peu à remonter, on voit que ces grandes entreprises-là, ces multinationales, elles arrivent à aller chercher de la croissance ailleurs, elles arrivent à continuer à croître, et ça c'est reconnu en bourse.
Les actions s'emballent, mais ce ne sont pas les seuls actifs à connaître un début d'année euphorique.
Alors, il y a d'autres marchés où ça se porte plutôt bien, mais c'est plus disparate. Cela dit, sur les matières premières, en général, ça va plutôt bien, notamment sur le pétrole, où ça a pas mal rebondi depuis le début de l'année, et notamment aussi sur quelques valeurs assez particulières, comme le cacao ou l'or, encore, qui a des records absolus assez récemment.
Le cacao et le pétrole bien orientés. Et Bastien, un mot des crypto-monnaies pour terminer. 2023 a aussi été une année faste. Beaucoup anticipaient l'arrivée de produits financiers, des ETF permettant d'investir plus facilement dans les cryptos. Ils sont disponibles aujourd'hui. Quel est l'impact justement de ces produits virtuels sur les cours des crypto-monnaies ?
Ça a très bien marché, ça fonctionne encore très bien. Il y a eu des milliards de flux sur ces nouveaux produits qui sont cotés à Wall Street. On parle de 7 milliards de dollars de collecte depuis le début de l'année. Enfin, ils ont été lancés mi-janvier quasiment. Et depuis, les cours du Bitcoin ont progressé assez nettement, assez fortement. On se rapproche du record. Il est possible qu'au moment de la diffusion, on ait déjà dépassé ce record-là d'ailleurs, historique. Donc ça a gagné plus de 50% depuis le début de l'année, ça a triplé en un an. Et là, on voit depuis ces derniers jours qu'il y a même ce qu'on appelle les altcoins, c'est-à-dire pas des bitcoins, mais encore plus spéculatives, comme le Dogecoin, qui a été popularisé par Elon Musk, qui a doublé de valeur en une semaine, quoi. Donc on voit qu'il y a un effet de spéculation, de fièvre acheteuse qui s'est emparé un peu du marché des crypto-monnaies ces derniers jours.
Ces sites internet vous proposent des placements au rendement exceptionnel, entre 6 et 12%, qui rapporteraient 5 fois plus qu'un livret A. Le principe, investir dans quelques vaches.
Une arnaque à la vache laitière débusquée en 2019 et évoquée ici sur France Info. Dans Les Échos, Nessim Haït Kassimi avait fait un effet bœuf en racontant l'entourloupe. Il y a quelques jours, il a récidivé en parlant de lapin. Alors non, il n'a pas débusqué une pyramide de Ponzi autour de ce sympathique et grignotant animal, mais il raconte qu'au XIXe siècle, les lapins ont été l'objet d'une bulle spéculative avant de connaître un krach retentissant. Et de poursuivre, volailles, lapins, autruches, alpagas, thon, les animaux connaissent des bulles spéculatives récurrentes suivies de krachs. Et pas besoin de remonter loin. L'année dernière, le prix du bovin coté sur le marché de Chicago s'est envolé de 19% sur les 9 premiers mois de l'année pour abandonner ensuite tous ses gains en seulement 3 mois. À se demander si à la fin, ce ne sont pas les investisseurs qui vont devenir chèvres ou se transformer en pigeons. Depuis le début de l'année, de nombreux marchés se sentent pousser des ailes. On en parlait avec Bastien à l'instant. Mais à force de monter, de gonfler, ne se dirige-t-on pas vers un monde de bulles financières ? Bonjour Christopher Dembick.
Bonjour.
Bienvenue dans La Story. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, une société de gestion suisse. D'abord, que pensez-vous de l'évolution des actifs financiers depuis le début de l'année ? Ça ne vous donne pas le vertige ?
Alors, on a très clairement eu un emballement, on le voit sur les marchés. Alors, c'est très palpable sur les marchés actions. On ne cesse de battre des records, on le voit avec les valeurs technologiques. On le voit aussi que ça se porte bien du côté de la Bourse de Paris. On a très bonne performance, par exemple, dans les valeurs du luxe. Mais ce n'est pas uniquement sur les marchés actions. On a aussi quelques effets d'engouement. On le voit sur certaines matières premières. Typiquement le cacao, où là, très clairement, il y a une grosse partie de spéculation, en revanche, sur cette matière première. On voit aussi que ça commence à bouger un peu sur le pétrole. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de mouvements en ce début d'année, et surtout un fort emballement et un vrai optimisme des marchés, puisque d'habitude, quand les marchés actions augmentent fortement, c'est-à-dire que les investisseurs sont plutôt optimistes à l'instant T, mais surtout pour l'avenir. Et donc, vraisemblablement, la photo qui commence à se mettre en place en termes macroéconomiques, en termes de marché, est plutôt positive pour 2024.
Pourquoi les marchés mondiaux ignorent-ils la guerre en Ukraine et à Gaza, la croissance chinoise en berne et les risques de récession, par exemple en Allemagne ?
Parce que foncièrement, on a toujours des relais de croissance qui se mettent en place, y compris au regard de la Chine. Alors après, on peut débattre si c'est pertinent ou pas, mais du point de vue des investisseurs, le fait que la Chine ralentisse n'est pas un problème parce qu'il y a des relais de croissance, typiquement l'Inde. Et on le voit très bien en termes d'arbitrage, les investisseurs quittent le marché boursier chinois, ils vont en revanche sur le marché boursier indien. En ce qui concerne le risque géopolitique, alors c'est vrai qu'il est très très présent cette année, il faut bien le reconnaître, mais la réalité c'est que pour les marchés, c'est un risque qui a un effet très court terme, on l'a vu notamment avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, ça a eu un petit effet pendant quelques semaines, mais les marchés se rétablissent très rapidement, ils se rendent compte que l'impact ne va pas être aussi important qu'anticipé, et surtout peut-être ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le risque géopolitique, foncièrement pour les marchés financiers, ça pose un problème en termes de liquidité, c'est foncièrement ça. Je vous donne l'exemple de la guerre en Ukraine, là où ça avait le plus bougé, c'était sur le marché du gaz, pour des raisons évidentes, mais aussi parce qu'il y avait soudainement un problème de liquidité, les intervenants sur le marché ne savaient plus quoi faire. Ça se passe pas vraiment sur des marchés qui sont plus larges, comme les marchés actions, typiquement sur la bourse américaine, c'est pas un sujet qui va survenir. Donc finalement, il y a des lames de fond qui font que les marchés boursiers sont finalement assez résilients par rapport à tous ces risques ou à ce ralentissement économique qui est à l'œuvre dans certaines zones.
It's a historic day for Japanese stocks. The Nikkei average reached an all-time high on Thursday, and it's a record the country has not seen since its economic heyday in 1989.
Record à la bourse de Tokyo, comme on l'entend ici sur Bloomberg TV. Les Japonais attendaient ça depuis 34 ans, mais ça monte ailleurs. Depuis mars 2020, la bourse de Paris a quasiment doublé de valeur pour le CAC 40. Le Nasdaq 100 à New York est passé de moins de 7000 points à plus de 18000 points. Des exemples parmi d'autres, ça pose une question. Les marchés actions sont-ils aujourd'hui surévalués ?
Non. Alors, si on regarde certaines valeurs, je vous donne l'exemple de Nvidia parce que c'est celle dont on entend toujours parler sur l'intelligence artificielle. Oui, par rapport à... elle est un peu surévaluée. Mais foncièrement, ce qu'il faut bien voir, c'est que les marchés aussi sont face à une révolution industrielle, qui est l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, ça prendra peut-être un peu plus de temps que ce que l'on anticipe les marchés pour avoir un effet concret sur l'économie. Mais lorsqu'on est face à des phases de changements structurels aussi importants, il arrive très régulièrement qu'on ait ces phases d'engouement, qu'on ait éventuellement certaines valeurs qui sont plus susceptibles d'être réceptives à l'intelligence artificielle qui vont être un peu survalorisées. Mais la réalité derrière cela, en tout cas, on n'est pas sur un phénomène de bulle. Très souvent, en ce moment, on entend la comparaison entre 2024 et le début des années 2000, la bulle Internet. C'est pas complètement pertinent parce que foncièrement, aujourd'hui, les sociétés qui tirent l'ensemble de la bourse, ce sont des sociétés qui ont des résultats très solides. Rappelez-vous, fin des années 90, on avait des grosses, grosses valeurs qui finalement n'étaient pas du tout rentables. C'est pas le cas aujourd'hui sur ces grands segments en termes de valorisation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse différence à cet égard. Je pense que l'élément fondamental, c'est le fait qu'on est réellement face à une révolution industrielle massive, beaucoup plus d'ailleurs que l'Internet.
Il y a aussi les résultats des entreprises qui sont plutôt bons et même meilleurs que ce qui était attendu, ce qui peut expliquer d'ailleurs peut-être la performance des marchés actions.
Complètement. Alors, les analystes étaient probablement un peu pessimistes pour les derniers résultats d'entreprises. Mais peu importe, j'oserais dire. La réalité, c'est que le schéma qu'on a, ce sont des entreprises dans la plupart des secteurs d'activité qui sont résilientes, qui ont très bien géré leur trésorerie. Donc, elles sont en mesure de faire face aux conditions de refinancement qui sont moins bonnes aujourd'hui. Elles ont aussi prouvé une vraie agilité, que ce soit pour trouver une nouvelle part de marché marché. Je vous donne un exemple qui est un peu évident, c'est-à-dire le luxe est finalement très adossé historiquement à la Chine. Le consommateur chinois a moins dépensé. On a constaté que finalement, on a trouvé des relais de croissance au niveau des Européens et des Américains. Donc, la réalité, c'est qu'on a des entreprises, des grandes entreprises qui sont en très bonne forme, qui affichent de très bons résultats. Le consommateur dans les pays occidentaux est plutôt en bonne santé. Et probablement aussi, il faut bien reconnaître derrière cela, si les entreprises, elles se portent bien, ça veut dire qu'on a probablement des managers aussi qui sont compétents, qui sont en mesure de faire face au vent contraire et l'ont prouvé finalement depuis la Covid.
Vous parliez de Nvidia, de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle en bourse les 7 fantastiques, Nvidia, Microsoft, Amazon, Tesla ou Meta. On peut s'interroger sur effectivement la question d'une bulle financière qui serait en train de se mettre en place. Elle pourrait mettre longtemps à éclater ou à se dégonfler.
Alors, pour expliquer cette forte concentration du marché américain et cette domination de ces fortes valeurs, j'aime bien me référer aux travaux de l'économiste français Thomas Philippon. Thomas Philippon nous montre que sur l'économie réelle américaine, on est finalement dans une situation oligopolistique. Concrètement, il y a moins de concurrence aux États-Unis qu'en Europe aujourd'hui. Et si on tire un peu la boucle, ça a un impact aussi sur la bourse, parce que typiquement, sur les 5 dernières années, vous avez une réduction par 10 des introductions en bourse au niveau américain. Pourquoi ? Parce que toutes ces belles valeurs, ces startups, elles font plus une sortie via la bourse, elles sont tout simplement rachetées par les 7 magnifiques, ce qui accroît bien sûr le fait qu'on a moins de concurrence, ce qui accroît la domination bien évidemment de ces 7 valeurs technologiques, et on est à la fois du côté de l'économie américaine, mais du côté du marché boursier américain aussi, dans une situation oligopolistique. Foncièrement, ça peut durer très longtemps, je vous donne un exemple, dans les années 60, on était dans une situation assez similaire, avec l'énergie en revanche, le pétrole qui était dominant, et ça a duré plusieurs années. Sans soit foncièrement un phénomène de bulle, mais ça reflète une situation structurelle de l'économie et derrière cela, du fonctionnement des marchés financiers.
Et un chiffre qui témoigne de l'emballement autour de Nvidia, je l'ai lu sur le compte X de Bespoke Investment, l'action du fabricant de semi-conducteurs explique plus d'un quart de la performance de l'indice S&P 500 sur les 2 premiers mois de l'année. Microsoft en a rapporté de son côté près de 10%, quand Apple et Tesla ont été les principaux perdants en poids dans l'indice. Alors, il y a les 7 fantastiques qui caracolent en bourse et à côté de la bourse, il y a le Bitcoin aussi qui caracole plus de 45% en un mois pour cette crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, je pense que sur le Bitcoin ou d'ailleurs tous les crypto-actifs, il ne faut pas avoir une vision uniquement, voilà, c'est spéculatif. Je pense que c'est un peu erroné. Il faut reconnaître qu'il y a un vrai changement derrière cela. Il y a à la fois l'institutionnalisation via les ETF, bien évidemment, qui va être une lame de fond et qui explique très certainement en grande partie cette appréciation sur les dernières semaines. Mais foncièrement, le Bitcoin, très certainement qu'il faut l'appréhender un peu comme l'or, même si les deux n'ont pas le même statut de valeur refuge, à mon sens. Mais en revanche, ce sont des actifs qu'on essaye d'avoir dans un portefeuille de façon très, très minoritaire. Nous, on ne les met pas en avant typiquement à l'égard de nos clients. Je sais que certains concurrents le font et ça peut éventuellement faire sens. Mais en tout cas, on ne peut pas complètement négliger ce phénomène. Et aujourd'hui, surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que sur les crypto-actifs, je pense qu'on a toujours ce débat en France de dire il faut investir en bourse sur le marché financier, mais les nouvelles générations semblent entrer sur les marchés financiers via les crypto-actifs et assez massivement. Donc peut-être qu'on va avoir une nouvelle génération qui est un peu plus éduquée sur comment bien gérer son épargne, et je vois ça donc plutôt positivement, cet effet de crypto-actifs.
La SEC, le gendarme de la bourse américaine, a effectivement donné son feu vert à la création d'ETF investis dans le Bitcoin. Dans le même temps, dans une note de blog, deux membres de la Banque Centrale Européenne mettent en exergue les risques sociaux et environnementaux que pose le Bitcoin, désigné comme un actif sans valeur intrinsèque. Pour ces monnaies virtuelles, le risque est-il aussi et avant tout réglementaire ?
Alors oui, le risque est très très clairement réglementaire. Derrière cela, il ne faut pas négliger le fait que beaucoup des révolutions technologiques, alors ça vaut d'ailleurs pour le Bitcoin, mais ça vaut, j'oserais dire malheureusement, pour l'intelligence artificielle, il y a des problématiques environnementales. Sur le Bitcoin, c'est tout simplement la consommation énergétique qui est massive. Sur l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il y a un problème de consommation d'eau, donc c'est un sujet qui commence à venir aussi aux États-Unis, mais fondamentalement derrière cela, on sait que les révolutions industrielles vont nécessiter de la réglementation. On sait que c'est du côté américain, ça va être un peu plus tardif parce qu'on aime faire que l'innovation puisse se diffuser, et c'est certainement la bonne approche. Et à un certain stade, bien sûr, il faudra régler ces problématiques environnementales, mais je doute très fortement que le régulateur américain souhaite brider complètement l'innovation qu'il y a autour des cryptoactifs. Et d'ailleurs, la Fed, comme beaucoup de banques centrales, travaille sur le sujet à leur manière, et il y a certainement un intérêt à cet égard. Je pense que l'approche américaine est censée, on sait qu'on va réguler, on regarde de près, on laisse l'innovation faire et par la suite, bien évidemment, on mettra une régulation plus ou moins stricte en fonction des résultats obtenus. Alors qu'en Europe, on a une approche qui est un peu différente, on va dire.
Alors, Christopher Dembick, on l'a vu, hein, les marchés sont bien orientés depuis plusieurs années. Les experts pointaient du doigt la politique de taux zéro des banques centrales. Certains parlaient même d'argent gratuit. Mais depuis 2 ans, les taux sont bien remontés. Comment expliquer que cet effet d'emballement se poursuive malgré les taux de la banque centrale?
Alors, ce qu'il faut bien avoir en considération, c'est qu'on a toujours de la liquidité dans le système. Alors, bien évidemment, on va regarder ce qui va se passer du côté des pays développés. On a moins de liquidité et surtout qui n'est plus à bas coût du côté de la Banque Centrale Européenne et de la Réserve Fédérale Américaine, mais on a aussi tout un pan de l'autre côté, qui est du côté des pays émergents, où finalement, on a des taux qui sont plus bas, puisque les pays émergents ont commencé de baisser leurs taux. Il y a beaucoup de liquidité qui est injectée, ça vaut pour les grands pays émergents, ça vaut également aussi pour la Chine, qui est sur une politique monétaire qui est très accommodante, où on cherche à soutenir l'économie, donc on injecte également de la liquidité, et tout ça fait que finalement, on a de la liquidité dans le système à investir. Ce qui est important, c'est que la liquidité au niveau des pays émergents, généralement, elle ne va pas rester sur les pays émergents. Elle est en général recyclée sur les marchés développés, prioritairement sur le marché boursier américain, ce qui alimente automatiquement la hausse des indices américains. Et donc, c'est vraiment un phénomène qui est structurant, qu'on ne doit pas oublier. Il y a aussi quand même de l'autre côté de la liquidité qui compte et qui fait qu'on a malgré tout aussi des éléments de soutien pour les marchés actions à cet égard.
Un dernier mot, selon FactSet, les 10 principales entreprises de l'indice Russell 1000 aux États-Unis représentent 31% de la valorisation de l'indice, c'est un record. C'est rassurant ou au contraire, est-ce inquiétant cette concentration, notamment si les marchés devaient se retourner?
Alors, je ne vois pas comme un problème pour les investisseurs, parce que la réalité, c'est que les investisseurs vont sur ces grandes entreprises. En revanche, il y a un sujet, c'est-à-dire que toutes les autres entreprises qui ne sont pas parties de ces 10 grandes entreprises que vous avez mentionnées, elles ont des problèmes de refinancement. Elles sont concrètement invisibles pour les investisseurs, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui décident pour se refinancer, soit de passer par l'interbancaire, donc via les banques en Europe, c'est assez fréquent, ou tout simplement même de sortir de la bourse. Donc on va avoir un problème pour les petites et moyennes entreprises cotées en bourse qui sont invisibles dans un contexte de très forte concentration autour d'une poignée de grandes sociétés, souvent des valeurs technologiques si on regarde du côté américain.
C'est le cas notamment en France de Believe, hein, qui s'apprête à quitter la bourse.
C'est le parfait exemple. Believe, quand c'était introduit en bourse, c'était présenté comme le très bon dossier. Et c'est vrai que c'est un très bon business model avec un bon management. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à attirer des investisseurs sur la longue durée, ce qui permet d'avoir des financements. Parce que foncièrement, aujourd'hui, quand vous investissez à la Bourse de Paris, vous investissez pas sur ces petites moyennes entreprises, vous investissez sur les grandes valeurs de l'industrie et du luxe, essentiellement, si on regarde sur les derniers mois. Et donc, automatiquement, votre valorisation baisse, vous avez une forte probabilité de vous faire acheter et donc de sortir de bourse. Et c'est ce qu'on constate très massivement à la Bourse de Paris depuis la fin d'année 2023.
Merci Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Et merci Bastien Bouchaud du service marché des Échos. L'actualité de la bourse, c'est tous les jours sur leséchos.fr. Abonnez-vous pour rester informé. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.